pour bien saisir certaines maximes de La Rochefoucauld. Il faut se cramponner aux ridelles. Un jour, il a dit « L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. » La vertu, par exemple, c'est que les rabbins juifs reconnaissent que la prophétie du psaume 110 concerne le Messie. Mais le jour où a éclaté la polémique entre juifs et les chrétiens du 1er siècle sur l'identité de Jésus, ces mêmes rabbins embarrassés ont fait marche arrière avant toute et se sont creusés la tête pour inventer d'autres explications, farfelues, celles-là. Ça, c'est du vice, mais leur stupidité hypocrite prouve que leur interprétation initiale est la bonne. Le psaume 110 est le plus cité dans le Nouveau Testament. Son caractère messianique est tellement prononcé qu'il est impossible d'appliquer ce qu'il dit à un roi israélite ou à un autre être humain. Ce psaume, au langage bref, est un décret divin. Il commence sans introduction et se termine de même, subitement et de manière inattendue, en queue de poisson, en quelque sorte. Le discours énergique est concis, coloré et riche en images. Le ton royal est prophétique. Et les pensées élevées sont des caractéristiques propres au cantique de David. Je commence à lire le psaume 110. Psaume de David, déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un marchepied sous tes pieds. Psaume 110, verset 1er. Les trônes antiques étaient très hauts. Il faut des marches pour y accéder, ce qui permet au roi de poser son pied sur la nuque de ses ennemis vaincus. Josué, chapitre 10, verset 24, 1 roi, chapitre 5, verset 17. Cette prophétie est appliquée à Jésus par l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « C'est par son Fils que Dieu nous a parlé. Il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ?» « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Hébreux, chapitre 1, les versets 2, 3 et 13. Dans l'oracle, l'Éternel dit à mon Seigneur, « C'est Dieu qui s'adresse au maître de David, un roi d'une très grande dignité qui se tient à la droite de l'Éternel, la place d'honneur par excellence. » 1 roi, chapitre 2, verset 19. Cette position signifie qu'il participe au règne de Dieu. L'Éternel associe donc le Seigneur de David, c'est-à-dire le Messie, à son pouvoir universel. Quand Jésus était sur terre, ses ennemis ont tout essayé pour le piéger. Le parti politique des partisans d'Hérode tente sans succès de le forcer à dire une parole qui fait de lui un traître de Rome. Le parti religieux fantaisiste, des Sadducéens, essaie de le coincer avec des questions ridicules relatives à la loi de Moïse, questions auxquelles Jésus accepte quand même de répondre. Quant aux pharisiens, des religieux rigoristes purs et durs, la réponse que Jésus donne à leurs questions les jette dans la plus grande confusion. Pendant qu'ils recouvrent leur esprit, le Seigneur leur pose à son tour la question suivante. Que pensez-vous du Messie, d'après vous? De qui descend-il? De David, lui répondirent-ils. Alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? En effet, il déclare, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. Si David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible qu'il soit aussi son fils? Nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse, et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de questions. Matthieu chapitre 22, les versets 42 à 46. Quand Jésus comparaît devant le juge de la Cour suprême d'Israël, il répond lui-même à la question qu'il a posée aux pharisiens. Dans l'Évangile selon Matthieu, on lit « Alors le grand prêtre dit, « Je t'abjure, par le Dieu vivant, de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le dis, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venu en gloire dans les nuées du ciel. » Matthieu, chapitre 26, les versets 63 et 64, en affirmant qu'il sera désormais assis à la droite du Tout-Puissant. Jésus se déclare rien de moins que le Fils de Dieu, l'égal à l'Éternel et donc, évidemment, le Seigneur de David. Je continue le psaume 110. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Psaume 110, verset 2. Sur la colline de Sion est bâtie Jérusalem, la cité royale de David qui sera aussi la capitale du royaume du Messie lorsqu'il gouvernera le monde. Le prophète Ésaïe écrit « Oui, des peuples nombreux viendront et se diront les uns aux autres « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. » Ésaïe chapitre 2, verset 3. Je continue le psaume. « Ton peuple sera un peuple de franche volonté, au jour où ton armée sortira avec des ornements sacrés. Ta jeune milice sera devant toi. » Psaume 110, verset 3. Ce passage décrit une armée de fidèles qui obéissent au Messie par pure dévotion et qui sont revêtus des habits des prêtres les jours de grandes fêtes. Je lis un passage parallèle du livre de l'Apocalypse. Son nom est fidèle et véritable, la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. Apocalypse chapitre 19, les versets 11, 13 et 14. Je continue le psaume 110. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son serment. Tu seras prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110, verset 4. Cette révélation est l'un des enseignements fondamentaux du Nouveau Testament. Au temps d'Abraham, dans Genèse 14, les versets 18 à 20, Melchisédek est prêtre de l'Éternel, ainsi que roi de Salem, qui prit plus tard le nom de Jérusalem. Ce passage annonce donc un roi qui cumulera la prêtrise et la fonction royale, non à titre temporaire, mais d'une manière définitive et pour toujours. Cette double charge n'était pas possible sous le régime de l'Ancienne Alliance qui établissait une séparation bien nette entre ces deux fonctions. Cette nouvelle idée est tellement révolutionnaire qu'elle est scellée par un serment de l'Éternel qui rend désormais ce décret extraordinairement irrévocable. Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13. L'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament annonce pareillement, et, en termes très précis, la venue d'un roi qui sera élevé à la charge de grand prêtre. Cette prophétie est citée dans le Nouveau Testament par l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 5 et les versets 6 à 10, qui désigne le roi prêtre, Melchisédek, comme une préfiguration de Jésus-Christ. Le Messie est le nouveau Melchisédek, qui remplit les deux offices de roi et de prêtre. Jésus est le Fils éternel de Dieu, et il est en même temps humain, dans le plein sens du terme. Par cette double identité, il a un pied dans le ciel et un sur la terre, ce qui lui permet d'être le médiateur, l'intermédiaire parfait entre la divinité et nous autres ici-bas. Je continue le psaume 110. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Psaume 110, verset 5. Au début, le psalmiste décrit le Messie assis à la droite de l'Éternel. Maintenant, c'est le contraire. Ce jeu de scène sert à montrer que le Père et le Fils sont égaux dans la Trinité et occupent des positions interchangeables. Ensemble, ils exerceront un jugement sans précédent sur le monde afin d'en extirper tout le mal. Dans le psaume second, on lit « Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. » Psaume 2, verset 9. Je continue le psaume 110. « Il juge les nations. » Les cadavres s'entassent. Il écrase le chef qui domine sur un grand pays. Psaume 110, verset 6. L'armée qui a été mentionnée au verset 3 est entrée en action. Le chef qui est écrasé, c'est l'Antéchrist, aussi appelé la bête. Cette guerre est décrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Je finis le psaume 110. En chemin, il s'abreuve. Il boit l'eau d'un torrent. C'est pourquoi il relève la tête, en triomphateur. Psaume 110, verset 7. Le Messie Héros vainqueur, a livré un combat intense durant lequel lui et ses troupes ne se sont accordés aucun repos. La bataille terminée, en passant, il puise dans sa main de l'eau du torrent. Cette image sert à rappeler l'humanité du Christ qui l'a conduit à l'humiliation de la croix ainsi que sa victoire complète sur les hommes rebelles. Nous arrivons au psaume 111, le premier d'une série de trois dont le titre est « Alléluia », qui veut dire « Louer l'Éternel ». Ce cantique est alphabétique, c'est-à-dire que ces vers débutent par les lettres successives de l'alphabet hébreu. Il célèbre les œuvres et le salut de l'Éternel envers son peuple, destiné à être apprise par cœur. Ces versets sont brefs. Je commence à lire le psaume 111. « Louez l'Éternel, vous tous ! Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans le conseil des justes et dans l'assemblée. » Psaume 111, verset 1er. Le conseil des justes est un cercle plus restreint et moins officiel que l'assemblée du peuple. Où que le psalmiste se trouve, son désir est de louer l'Éternel. Je continue. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées de tous ceux qui y prennent plaisir. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Pour toute éternité, subsiste sa justice. Il établit un mémorial de ses merveilles. Oui, l'Éternel est bon et il fait grâce. Psaume 111, les versets 2 à 4. Les fêtes juives fonctionnent comme un mémorial qui perpétue le souvenir des délivrances de l'Éternel. Les premiers chrétiens chantaient ce cantique quand ils célébraient la Sainte Cène avec le pain et le vin. L'homme moderne qui attribue l'univers et tout ce qui s'y trouve au hasard vole à Dieu sa gloire. Cette croyance athée est tout aussi grave que de rejeter Jésus-Christ comme sauveur. Je continue en compressant. Il pourvoit aux besoins de ceux qui le révèrent. Il se souvient toujours de son alliance. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est vérité et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Il envoie le salut pour délivrer son peuple. Il conclut avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. Psaume 111, les versets 5 à 9. Tout ce que Dieu fait est conforme aux principes éternels de sainteté, vérité et de justice, grâce auxquels il dirige l'univers. Il juge ceux qui le méprisent et qui veulent contrecarrer ses plans. Je finis le psaume 111. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Psaume 111, verset 10. Le devoir de l'homme est de révérer son Créateur, de lui vouer une crainte respectueuse parce que ses œuvres parlent pour lui. La création manifeste sa toute-puissance, sa gloire, sa beauté et sa sagesse. La rédemption accomplie en Jésus-Christ révèle sa sainteté, sa justice et son amour pour l'homme. Un jour, toute créature lui sera soumise et chantera ses louanges. Nous arrivons au psaume 112 qui, comme le 111, est alphabétique. Le psalmiste y décrit le bonheur de ceux qui révèrent l'Éternel, ce qui rend son contenu très proche du précédent. Le 111 ainsi que du psaume 1er qui commence par « Heureux l'homme ». Psaume 1, verset 1er. Je commence à lire le psaume 112. « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui révère l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. » Psaume 112, verset 1er. Les ordonnances divines sont comme un miroir qui reflète ce que je suis vraiment. Elles révèlent aussi que même si je désire leur obéir, j'en suis totalement incapable et par conséquent, j'ai besoin d'un sauveur. Je continue. Sa postérité sera forte sur la terre et Dieu bénira les enfants du juste. Psaume 112, verset 2. La bénédiction du juste s'étend à ses descendants. Bien sûr, il y aura toujours des Lazares qui, tout en espérant en Dieu, manquent de tout, et des impies prospèrent. Mais en règle générale, celui qui révère l'Éternel est béni, du fait qu'il possède une ressource d'origine divine qui lui permet de mieux faire face aux situations difficiles que celui qui est athée ou pratique le vice. Je continue. L'abondance et la richesse seront dans sa maison et sa justice subsiste à toujours. Psaume 112, verset 3. Dans le psaume 111, au verset 3, on lit que « Pour l'éternité, la justice de Dieu subsiste à toujours ». Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu doit juger les fautes des hommes. Mais ici, c'est la justice du fidèle qui subsiste toujours, parce qu'il révère Dieu et désire se conformer à sa volonté. Son attitude, ses priorités et ses valeurs reflètent celles de Dieu. Le psalmiste répète cette même pensée un peu plus loin au psaume 112 et au verset 9. Je continue. Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes droits, pour ceux qui sont compatissants, bons et justes. L'homme qui exerce la miséricorde et prête généreusement s'en trouvera bien. Il aura gain de cause en jugement. Psaume 112, les versets 4 et 5. La compassion, la bonté et la justice sont les qualités de l'Éternel mentionnées dans le psaume précédent. Ici, ce sont des vertus attribuées aux fidèles. C'est comme si Dieu déteint sur celui qui lui voue une crainte respectueuse. De plus, face à l'adversité, le croyant sera secouru et il aura gain de cause s'il est en procès avec ses adversaires. Je continue le psaume 112 plus loin. Il n'a pas à craindre de bruit malveillant. Son cœur est tranquille. Il s'appuie sur l'Éternel. Psaume 112, verset 7. La confiance en Dieu est la meilleure parade aux calomnies, aux menaces de toutes sortes et aux mauvaises nouvelles. Je continue plus loin en compressant. On le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Psaume 112, verset 9. Ce verset est cité par l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 9. Dans tous les pays du monde, et quel que soit le système politique, les pauvres sont exploités à tour de bras, au même titre que les puits de pétrole ou les mines de charbon. Tous les programmes mis en place pour les aider ne sont souvent que des vitrines qui permettent aux politiciens de bien paraître et de se donner bonne conscience. Dieu, par contre, s'intéresse vraiment aux miséreux, à ceux qui souffrent, ainsi qu'au bon samaritain qui, du fond du cœur, leur viennent en aide sans rien espérer en retour. Je finis le psaume 112. Le méchant en est témoin, il s'arrache et il s'aigrit, il en grince en dépit et il en est abattu. Oui, les désirs des méchants seront réduits à néant. Psaume 112, verset 10. Le jour viendra où le mal et la méchanceté ne seront plus. Alléluia! Nous arrivons au psaume 113 qui a été nommé le Magnificat de l'Ancienne Alliance parce qu'il exalte la majesté suprême de l'Éternel comme le fait le cantique d'Anne, 1 Samuel, chapitre 2. Et celui de Marie, Luc 1. Bien que plus élevé que les cieux, Dieu s'abaisse jusqu'au plus chétif et tout petit pour le prendre sous sa protection. Le psaume 113 est le troisième de la mini-série qui a pour titre « Alléluia ». Et c'est lui qui introduit la série des psaumes 113 à 118 qui s'est appelée « Allel ». Ces six cantiques de louanges sont chantés lors des grandes fêtes juives pour la Pâque. Matthieu 26, verset 30, la fête des moissons ou Pentecôte et pour la fête des cabanes ou tabernacles. Je commence à lire le psaume 113. Vous, ses serviteurs, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Psaume 113, verset 1er. Si vous entrez dans n'importe quel bistrot, vous entendrez quelqu'un prendre le nom de Dieu en vain. C'est chose courante et tellement banale qu'on n'y fait pas attention. Par contre, les gens qui lui rendent gloire et honneur ne courent pas dans les rues. Pourtant, l'Éternel mérite notre louange parce qu'il est le Seigneur de la création et le Rédempteur de l'homme. Je continue. Que l'Éternel soit loué dès maintenant et à toujours. de l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Psaume 113, les versets 2 à 6. Cette image de l'Éternel qui doit se baisser pour regarder le ciel et la terre est destinée à donner une idée à la fois de l'immensité de Dieu et de sa bonté. Rien n'est grand à ses yeux. L'univers et ses milliards de galaxies ont pour lui la dimension d'un poster au mur. Et c'est par pure condescendance qu'il s'occupe de ses créatures. Il est tellement élevé que rien n'est trop petit ou trop humble pour lui. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 15 et verset 28. Il faut qu'il en soit ainsi afin que Dieu soit tout en tous. Je continue le psaume 113. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent et le tire de la boue pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Psaume 113, les versets 7 et 8. À partir d'ici, nous avons la reproduction du cantique d'Anne dans lequel l'abaissement et la misère des humbles sont bien soulignés. Dans les grandes villes, celles du tiers-monde en particulier, on voit des malheureux qui font leur gîte dans des dépotoirs, les décharges publiques ou les cimetières, comme au Caire. Et c'est sans compter ceux qui croupissent entassés dans des camps de réfugiés. Joseph aussi a touché le fond, mais il fut élevé grâce à sa foi et à sa dévotion à l'Éternel. Je finis le psaume 113. Il installe en sa maison la femme stérile. Elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel, psaume 113, verset 9. Dans la société antique, la stérilité d'une femme était une malédiction car sans fils pour s'occuper d'elle, une fois âgée ou veuve, elle était exposée à la plus grande précarité. Le psalmiste pense sans doute à Anne, qui donna naissance au prophète Samuel, à Sarah, femme d'Abraham, qui enfanta Isaac, et à Rebecca, son épouse, de qui naquit Jacob. Toutes ces femmes étaient stériles, mais elles supplièrent l'Éternel qu'il les exauçât.